présente l'émission de sport, l'avant-match. Entrevue, analyse, prévision, 100% sportive. Les coulisses des grandes équipes, les derniers développements, les événements sportifs déterminants. Le sport, scruté à la loupe.
Bon, on a eu tout un lundi dans le monde du sport. Un match de baseball gagné par Milwaukee. Un match du Monday Night remporté in extremis par les Packers. Mais au Centre Bell, c'était la soirée de M. Col Roulé.
Salut, bien Pécalette. Il s'avance au cercle. Tire le but. Et but! Thomas Pécalette! Et c'est 2-0 à son millième match. Et voilà. Une autre victoire. Une deuxième consécutive. Et celle-là, très décisive.
Martin, je ne m'attendais pas à voir les Red Wings s'effondrer deux matchs consécutifs.
Et la première étoile, the first star, à son millième match dans la Ligue nationale de hockey. Wow. Thomas Plekanec.
Quel beau coup de chapeau.
Et il a marqué un but important ce soir.
Au FM 93, vous écoutez l'avant-match avec Dan Pou.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 1961. Viens-tu d'entendre que Martin McGuire il a dit qu'il avait marqué un but important? C'est quel but, Will, qui a marqué Plekanec hier? Le deuxième, oh, ça faisait 2-0. Ouais, c'est important. Ça finit 7-3 la game. Martin McGuire, il décrit tellement vite l'action là, que j'ai l'impression qu'il a décrit le but avant que Plekanec marque à son millième match. Moi, je pense que Martin McGuire, il a décrit, puis après ça, la rondelle a rentré. C'est impressionnant de voir le Canadien 3-1-1. Mais là, les gens de Montréal qui s'attendaient pas à ce que les Red Wings soient aussi mauvais que ça, il fallait juste lire un peu au début de l'année. Là. Arrêtez de suivre juste le Canadien puis essayez d'ouvrir vos œillères puis de regarder un peu ce qui se passe aux quatre coins de la Ligue nationale. Vous allez voir qu'il y a de très bons jeunes joueurs qui jouent avec les Leafs de Toronto, mettons par exemple. Il y a de bons jeunes joueurs également qui jouent avec les Oilers d'Edmonton, mais ça fonctionne pas bien. Les Red Wings, c'était supposé être l'une des pires équipes. Fait que ça peut arriver que le Canadien gagne 7-3. Si le Canadien gagne 7-3 demain contre Saint-Louis, là, je vais avouer que le Canadien est sur une excellente séquence. Est-ce que Marc Bergevin s'est trompé aujourd'hui en mettant Jacob Delarose au balotage? Il voulait-tu mettre Plekanec puis envoyer le mauvais fax à la Ligue? Parce qu'à 2,2 millions, une fois qu'il a joué son millième match, c'est beau, il peut aller jouer en République tchèque. Là. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que Kotkaniemi, là, il n'est pas prêt. Tout le monde tripe dessus, mais il n'est pas prêt. Fait que s'il renvoie Plekanec au balotage, puis il rachète son contrat, puis s'en va jouer dans la République tchèque, puis la semaine prochaine, il décide d'investir un peu d'argent, puis d'envoyer Kotkaniemi en Finlande, puis il achète un billet d'avion, aller seulement. Il va rester juste trois joueurs de centre. Domi, Dano, puis Pekka. Il va en manquer un. Là, ils en ont cinq. Il faut qu'il décide s'il garde le jeune de 18 ans ou le vieux. C'est quoi, le vieux? 35, ça, Plekanec? 35, 36, 37. De toute façon, ça n'a pas d'importance, il n'avance plus. Peu importe, même si on checkait sa date de naissance. Je suis content d'avoir suivi les activités de la Ligue nationale autre que celle du Canadien dans les dernières années. Savez-vous pourquoi? Ça m'a permis d'analyser mieux que les gens qui suivent seulement le Canadien la transaction Pacioretty contre Tatar, Suzuki pour un deuxième choix. Je suis content d'avoir dit lors de la transaction que je trouvais que Thomas Tatar, c'était un bon joueur.
Thomas Tatar!
Merci, Will. Je l'aimais quand il jouait à Détroit. J'ai pas pu l'aimer longtemps à Vegas, ils l'ont mis dans les estrades. Mais je l'aimais quand il jouait à Détroit. Et je suis pas surpris que Tatar fonctionne autant que ça en début de saison. Les gens à Montréal, ils sont surpris, ils ne connaissaient pas. Bravo aux Canadiens, trois victoires, une défaite. et un revers en prolongation ou en fusillade. Quatrième au classement général, ça donne espoir. Et les partisans du Canadien, sérieusement, vous méritez ça. J'ai une discussion téléphonique avec mon partisan préféré. Éric Hull de Lac-Mégantic qui m'a appelé aujourd'hui. Il me laisse des messages. L'année dernière, ça a moins bien été. J'ai eu moins de messages de haine parce que son équipe en arrachait. Fait que là, finalement, il ne pouvait pas trop s'en prendre à moi. Mais là, comme son équipe a un gros début de saison, il me laisse des messages, je vous dirais, à chaque jour ou à chaque deux jours. Puis là, cet après-midi, ça a donné que j'ai répondu au téléphone. Fait qu'il a fait un saut, il s'en allait me donner de la boîte sur ma boîte vocale. Finalement, on s'est parlé. Puis on a fait un deal. On a fait un deal, il y a 5 matchs de jouer. J'ai convenu avec le partisan du Canadien, Éric Hull, parce qu'il dit tout le temps que j'étais un jaune, puis je le nomme pas, puis je le rappelle pas. Je vais le nommer. Ça fait deux fois que je le nomme. Je vais le renommer encore. Hein. Il s'appelle Éric Hull. C'est un auditeur de Lac-Mégantic. J'ai fait un deal avec lui. Je vous partage le deal en ondes. Il pourra plus dire que je suis jaune, là. Je le dis à tout le monde à Québec. Si le Canadien participe aux séries, la journée où le Canadien va se qualifier, l'émission L'avant-match qui va suivre, j'ouvre l'émission en disant « Éric Hull me l'avait dit après 5 matchs. » Et lui, en échange, j'ai convenu avec lui qu'il va m'appeler pour s'excuser si le Canadien ne fait pas les séries. On verra. C'est long, 82 matchs, hein?
L'avant-match. François Paquette.
Mon cher François, je suis sincèrement désolé de vous déranger pendant que vous regardez un match de baseball.
C'est agréable, par exemple, du baseball de série sur l'heure du souper. J'aime bien ça. J'aime bien ça.
C'est surtout une excellente idée de ne pas mettre les matchs en même temps.
Oui, c'est vrai.
Et
c'est
ça,
vrai.
Et ça, la Ligue nationale, je recommence. Le baseball majeur le fait bien. Quand on a, parce qu'il y a des séquences, sais-tu, il y a 10 jours ou 2 semaines où on avait 4 matchs un certain vendredi. Ben, il y avait des matchs, je pense, de 1h l'après-midi jusqu'à, je pense, 20h ou 21h le dernier. Le baseball majeur s'arrange pour pas que les matchs se jouent en même temps souvent, hein?
Oui, c'est ça. Le seul problème qu'on a, c'est que souvent les matchs s'étirent un petit peu trop. Puis il y a beaucoup de matchs qui ont dépassé les 3h30, 4h dans les séries. Fait que tu avais un match, disons, à 1h, puis l'autre à 16h, ben les deux dernières manches, ça pouvait arriver qu'on empiétait sur le début du match suivant.
Oui.
Mais ça, on n'a pas un bel choix, Dan, parce qu'on ne peut pas commencer à 10h le matin. Puis, on a parlé de toutes sortes de façons de tenter d'accélérer les matchs. Je pense qu'on a fait certaines choses qui ont fonctionné durant la saison régulière, mais quand les séries commencent, tu vois que les mauvaises manies reviennent et avec comme résultat des fois que les matchs sont un petit peu longs. Là, surtout pour les gens qui travaillent et qui écoutent les matchs de soirée qui commencent à 8h et qui se terminent à minuit, minuit et demi, ça c'est un petit peu moins agréable, mais jusqu'ici, le spectacle est de très bonne qualité.
François, dans les dernières années, les partisans des Red Sox ont été gâtés. Là. Ça a été Terry Francona, le gérant. Puis dans les dernières années, c'était John Gibbons.
John Farrell.
Gibbons, c'est Toronto.
Oui.
John Farrell, je mélange tout le temps leur nom de famille. John Farrell, je trouvais que c'était un monsieur qui avait l'air crédible. Terry Francona, la même affaire. Mais je suis sincèrement impressionné par Alex Cora. Il a 42 ans. Il était l'adjoint à Houston l'année dernière. C'est un gars qui a joué dans les ligues majeures. Et quand je le regarde à la télé, il n'est pas obligé de donner un coup de pied sur une poubelle. C'est le genre d'entraîneur pour lequel j'aurais le goût de me défoncer.
Oui, puis je pense que c'est un peu la nouvelle génération. En fait, les entraîneurs qui sont dans la quarantaine, qui n'ont pas pris leur retraite depuis très, très longtemps, qui sont encore, je pense, très près des joueurs, qui sont un petit peu plus collés à l'actualité d'aujourd'hui. Puis je te fais un espèce de parallèle parce qu'il y a deux styles. Il y a Cora qui est proche de ses joueurs, puis je trouvais que ton exemple est très bon en disant « t'as pas d'affaire à donner un coup de pied sur une poubelle pour que les joueurs t'écoutent ». Puis t'as un gars comme Gabe Kapler avec les Phillies de Philadelphie.
Okay.
Lui est arrivé, lui aussi, mi-quarantaine. C'est un gars qui a joué longtemps dans le baseball majeur. Oui. Mais lui, l'autre génération, c'est-à-dire statistiques avancées au maximum, plus de malbouffe dans les vestiaires. Ça,
okay.
Ça m'a vraiment frappé parce que dans le monde du sport, tu sais, quand même, la malbouffe par défaut un peu sa place, surtout dans le monde du baseball, des fois où tu bouges beaucoup, tu te déplaces beaucoup, puis il y a beaucoup de voyagements. Puis on a fait en sorte que les joueurs mettent beaucoup l'accent sur l'entraînement aussi. Donc c'est un peu la nouvelle génération. Moi, je préfère plus l'attitude de Cora que par rapport à Capla, parce que Capla incite aussi beaucoup les joueurs à être actifs sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas de tous les gérants.
Ouais.
Mais je pense qu'on a frappé dans le mille avec Cora. Puis même à un certain point, Dan, je pense que les Yankees aussi ont fait un bon choix avec Aaron Boone. T'sais, ça s'est peut-être pas passé comme prévu en série. On l'a critiqué pour certaines décisions. Mais je pense qu'il y a plusieurs bons jeunes gérants qui ont fait leur place. Puis surprends-toi pas, Dan, si les Jays décident d'aller dans cette direction-là aussi. On a souvent parlé d'Eric Wedge, qui est un vieux de la vieille, qui est un ami des gars qui sont là, qui pourraient être gérants. Mais je sais qu'on regarde beaucoup pour les jeunes, puis ceux qui regardent le baseball d'une nouvelle façon, parce qu'on a vu ce que ça a fait, entre autres, avec les Astros. Un gars comme AJ Hinch, qui est un gars de la nouvelle génération, beaucoup de succès. Donc, j'ai hâte de voir si Cora sera en mesure de battre son ancienne équipe, parce que je pense que l'expérience qui a été acquise l'an passé à Houston, c'est très, très important ce qu'il est allé chercher pour justement tenter de battre une très bonne équipe. J'ai hâte de voir parce que cette série-là, c'est parti pour se terminer en sept matchs.
On a eu des bons matchs en fin de semaine, tant dans la Nationale que dans la Ligue américaine. Et hier, les Brewers sont allés gagner à Dodger Stadium 4-0. On va écouter ce qui s'est passé hier, puis on vient ensemble après.
Jefferson, 1-2. Got him! Struck him out looking. Milwaukee wins it 4-0 as Jeffress gets into and out of trouble.
Hell yeah.
And the Brewers are up 2-1.
Tu sais, on parle beaucoup de Moneyball, puis le film qui a été fait sur l'histoire des A's d'Oakland. Puis cette année, même les A's ont surpris tout le monde avec la plus petite masse salariale. Ils ont accédé au match de Wild Card. Ils ont perdu finalement contre les Yankees. Mais les Brewers de Milwaukee, François, tu sais, Ryan Braun a été bon une couple d'années. Après ça, il a été suspendu pour dopage. Ils ont Christian Yelich qui est arrivé de Miami, qui est peut-être leur meilleur joueur. Travis Shaw qui n'avait pas de temps de jeu à Boston, qui est devenu leur troisième but. Et là, il a fallu qu'il change de position parce qu'on est allé chercher Moustakas qui arrivait de Kansas City en fin de saison. Mais les Brewers, sérieusement, là, tu sais, si je parle à mes chums, si tu parles à tes chums de baseball des Brewers de Milwaukee, on va avoir de la misère à les intéresser. Je trouve qu'ils ont le prototype parfait d'une équipe Cendrillon.
Oui, certainement. Puis, tu sais, c'est pas au point de pas avoir beaucoup d'argent comme c'était avec les Expos, puis comme c'est le cas avec les Marlins puis les Rays. Mais c'est pas un club à gros budget non plus. Tu sais, on est quand même capable de signer quelques joueurs. On est dans le milieu, mais peut-être un petit peu plus du côté des pauvres. Puis, tu sais, dans l'histoire des Brewers, ils ont participé une fois à la Série mondiale, c'est en 1982. Puis les gens vont se rappeler qu'à cette époque-là, les Brewers étaient dans la Ligue américaine. Ils avaient perdu en 7 matchs contre les Cards de Saint-Louis. Puis c'est une série où les Brewers leur manquaient leur meilleur releveur, Rolly Fingers. Les gens se rappellent de sa belle moustache, mais c'était aussi un bon lanceur. Puis on dirait que les gens de Milwaukee, tu sais, ça te laisse un goût amer parce que t'es allé une fois à la Série mondiale, il te manquait une victoire, puis il te manquait ton meilleur lanceur. Mais ça a été une belle histoire. Là, par la suite, il y a eu des années plus difficiles. Puis mine de rien, depuis 2011, on n'avait pas participé aux séries du côté des Brewers. C'est simplement la façon de le faire qui a été un peu surprenante. Puis je m'explique, c'est que durant la saison morte, on savait qu'il fallait s'améliorer au champ extérieur. Là, on a frappé dans le mille. On a donné le contrat à Lorenzo Cain. Oui, c'est un vétéran qui, il est rendu, il peut juste aller en bas de la montagne, il peut pas monter plus haut que ça, mais c'est un très bon vétéran.
Ouais.
Puis l'acquisition de Christian Yelich. Mais quand est arrivée la date limite des transactions, on se disait tous, on va aller chercher des lanceurs partants, on va se trouver une façon d'être meilleur sur la butte. Puis au contraire, tu as parlé de Moustakas, on est allé chercher lui à Kansas City, Scope à Baltimore. Quelques lanceurs par-ci par-là, mais rien de majeur parce qu'on avait confiance que dans le monde des séries d'aujourd'hui, puis on voit ça depuis quelques années, c'est ce qu'on voit des Brewers depuis le début des séries, c'est-à-dire si ton lanceur partant peut te donner au minimum 3 manches, dans le meilleur des mondes, 5 à 6, comme on le levait avec Chastain hier.
Plein de releveurs après.
Et c'est incroyable. Puis je veux dire, t'as 4 releveurs de très grande qualité.
Oui.
Moi, je disais souvent, Dan, que les Brewers allaient battre les Dodgers puis que Josh Hader allait être le joueur par excellence.
Oui.
Évidemment, il a très bien lancé dans le premier match. Hier, on n'a pas eu l'utiliser beaucoup. Il va être disponible plus longtemps. Mais tu sais, les jeunes comme Corbin Burns...
François, hier, il a quand même lancé la 8e.
Oui, il a lancé une manche, mais il va être disponible aujourd'hui.
Okay.
Mais on est encore très prudent avec lui. Je pense pas qu'il va lancer 3 journées de suite.
Okay,
mais aujourd'hui, je suis certain qu'il est disponible.
Okay.
Puis c'est avec le jeune Burns, avec Jeffress, avec Soria, avec Ken Abel. C'est un peu la recette qu'on a vue de quelques équipes dans les dernières années, comme les Indiens l'avaient fait avec Andrew Miller il y a 2 ans, lorsqu'ils sont rendus à la Série mondiale. Écoute, je sais pas si ça va être assez. C'est sûr qu'à un moment donné, t'as un de tes partants ou de tes faux partants qui va se casser la gueule en première ou en deuxième manche.
Ouais.
C'est certain que ça va arriver.
Mais moi, j'aimerais ça.
jusqu'ici, c'est un bon spectacle. Puis honnêtement, tu as parlé d'équipe Cendrillon, puis je pense que c'est l'équipe Cendrillon, puis sincèrement, j'espère qu'ils vont se rendre au moins jusqu'en Série mondiale.
Oui, j'aimerais ça qu'ils gagnent, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de baseball qui aiment la variété, qui sont tannés de voir les mêmes équipes. Évidemment, les Dodgers, c'est une équipe riche, donc souvent, dans le baseball, il y a une grande disparité entre les riches et les pauvres, donc on veut que les équipes pauvres réussissent à se rendre à la Série mondiale, puis ça serait une belle histoire que celle des Brewers. Dans la série Astros-Red Sox, qui joue actuellement, on est en troisième manche, c'est 2-1 pour les Red Sox, ben, est-ce que on dit souvent « the name of the game is pitching », dans ce sens-là, oublions les attaques, juste « the name of the game is pitching », Houston est favorisé par rapport aux Red Sox?
Oh, aucun doute, parce que juste tes deux droitiers en partant avec Verlander puis Cole, je pense que t'es supérieur aux Red Sox, parce que si Chris Sale est en santé, déjà pour les Red Sox, ce serait un plus, mais tu sais, Dan, il lance pas aussi fort, puis il est pas aussi dominant qu'il l'était en début de saison avant qu'il soit blessé à l'épaule, il est pas à 100%. David Price, on a beau avoir gagné le match qu'il a lancé, il n'y a pas une victoire en carrière en série, une moyenne au-dessus de 6. C'est une boîte à surprise. Puis, tu sais, même avec Yovaldi puis Porcello 3 et 4, c'est deux bons lanceurs, mais je pense que les Astros sont mieux nantis avec les deux droitiers, avec Keuchel puis Morton, qu'on devrait voir dans le match numéro 4. Puis, à partir du moment où tu dis ça, Dan, je pense aussi que la relève des Astros est meilleure que celle des Red Sox. On dit souvent le pont pour te rendre jusqu'à Kimbrel à Boston est très difficile. Puis même Kimbrel donne des points à peu près à chacune de ses sorties. Je continue de croire que les Astros vont gagner cette série-là à l'usure parce qu'on est peut-être un peu meilleur. On n'est pas de loin meilleur. On est un peu meilleur un petit peu partout. Puis il y a l'expérience des séries aussi. Donc j'ai bien hâte de voir, mais moi je pense que je continue de croire que les Astros puis les Brewers vont s'affronter en série mondiale.
François, je voudrais pas faire un partisan du Canadien de moi-même puis partir en peur, mais j'ai une question pour toi concernant Austin Matthews. Est-ce qu'à la lumière des derniers matchs que tu viens de voir de lui, on peut mettre son nom maintenant dans la discussion du meilleur joueur de la Ligue nationale?
Ben, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de discussion pour le numéro 1. Pour moi, Connor McDavid est le meilleur joueur de la Ligue, puis il va rester le meilleur joueur de la Ligue probablement pour les 10 prochaines années, juste en raison de son coup de patin. Écoute, c'est une coche au-dessus de tout le monde. Mais dans la discussion du numéro, tu sais, de placer 2 à 5, là, ça devient très intéressant. Puis je sais pas si c'est la semaine passée ou il y a deux semaines, tu m'as posé la question, si un pôle de hockey, tu as le deuxième choix, qu'est-ce que tu fais?
Oui.
Puis je l'ai vécu, tu sais, dans un pôle cette semaine, je faisais le pôle d'un de mes amis, j'ai eu le deuxième choix. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Tu sais, où est-ce que je m'en vais? Peut-être un peu influencé parce que la saison, il y avait quelques matchs de jouer. J'ai pris Austin Matthews au numéro 2. Puis là, tu te dis, j'aurais pu prendre Tavares, j'aurais pu prendre Kucherov, j'aurais pu prendre Crosby. Il y a une tonne de candidats, mais le numéro 1, c'est McDavid. Aussitôt que quelqu'un sait qu'il repêche numéro 1, tu peux écrire le nom de McDavid, puis je pense que ça va être comme ça pour les 10 prochaines années. Évidemment, McDavid, j'ai hâte de voir parce qu'il n'est pas entouré comme Matthews l'est. Mais ce que Austin Matthews est en train de faire, c'est de s'établir peut-être comme le nouveau numéro 2, celui qui détrône Sidney Crosby, qui a été le numéro 1 pendant très longtemps. Mais je pense qu'il faut quand même une période un petit peu plus prolongée avant de confirmer le tout. Mais je trouve que vraiment Matthews semble sortir de sa coquille à l'extérieur de la patinoire, sur la patinoire, puis je pense que tout ce qui se passe présentement à Toronto est très, très positif. Il va juste rester le dossier de Nylander à régler à un certain moment donné, mais pour le moment, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir quand tu as quoi, une seule défaite cette année, c'est pas trop inquiétant pour Mike Babcock. Là.
Juste pour faire un parallèle avec les années, pour les plus jeunes qui n'ont pas trop suivi le hockey dans les années 80 et 90, Austin Matthews est le meilleur marqueur de la Ligue. Après 8 matchs, il a 16 points. En 92-93, après 8 matchs, Mario Lemieux avait 15 buts et 31 points.
Autre époque et autre statistique.
Il y a trois équipes actuellement qui sont dans le top 10 de la Ligue nationale qui n'étaient pas supposées être là. Montréal, Buffalo et Ottawa. Laquelle de ces trois équipes, sans dire peut rester dans le top 10, j'ambitionnerai pas, mais peut rêver aux séries?
Moi, je change pas de dire que dans les trois, c'est les Sabres de Buffalo. Moi, je pense que les Sabres vont... tu sais, l'arrivée de Dallin là, change quand même beaucoup de choses, même si tu sais, il faut lui donner du temps, puis il faut lui donner des années d'expérience, puis des matchs d'expérience pour qu'il devienne le vrai numéro un. Mais moi, je trouve que les Sabres avec l'arrivée de Dallin, l'arrivée de Casey Middlestad, même si, bon, il produira peut-être pas autant qu'on veut à sa première année. Jack Eichel en santé, Les changements qu'on a fait devant le filet aussi, il reste des points d'interrogation, mais je pense que c'est l'équipe qui est la mieux nantie pour performer cette année. Peut-être qu'à à long terme, on verra, mais moi, je pense que les Sabres ont fait de très bonnes choses depuis qu'on a changé de DG. L'idée d'échanger Ryan O'Reilly, je pense que c'était la bonne. Je pense qu'on même on a fait une bonne transaction avec les Blues, avec les non seulement les choix repêchage, mais un jeune comme Tage Thompson, puis on est allé chercher des bons jeunes. Puis dans les deux autres cas, Dan, autant les Sénateurs que le Canadien, moi, je change pas d'idée que ça va s'essouffler très rapidement en raison de la fragilité. T'sais, c'est pas long, là. Tu perds un guerrier, tu perds un joueur important. Les Sénateurs ont gagné quoi leurs deux derniers matchs avec une défensive qui était pas loin d'une défensive de la Ligue américaine. Mais il y a 5 et 6 matchs de jouer pour ces équipes-là. Moi, je change pas d'idée que Ottawa puis Montréal, pour moi, il n'y a aucun doute qu'ils ne feront pas les séries. Est-ce que les Sabres vont les faire? Peut-être pas, mais je pense que du groupe des trois, c'est eux qui ont la meilleure chance d'avoir le plus de points cette année.
Il y a beaucoup de partisans du Canadien à l'écoute de mon émission ce soir. Pourquoi t'es si sévère avec le Canadien en fonction des 5 matchs que tu viens de voir d'eux?
Oh non, je veux pas être sévère parce que sincèrement...
Mais tu les sors des séries sans équivoque.
Mais tu sais, je veux dire, en toute honnêteté, moi, je trouve que c'est le meilleur des scénarios pour que l'intérêt reste là. Tu sais, ça, c'est la première chose.
Exact.
Il faut que tu sais, quand tu commences l'année comme, par exemple, comme les Red Wings, tu sais, l'année est déjà finie à Détroit. Tu vois pas les séries, tu le sais, puis elle va être longue. Mais en toute honnêteté, à Montréal, c'est le même discours qu'avec les Sénateurs au niveau de la profondeur. Je veux dire, défensivement parlant, ça a aucun sens, là. Je veux dire, t'as pas beaucoup de profondeur.
Et Weber va revenir.
Oui, ça, c'est sûr que ça va aider quand il va revenir. Ça, il n'y a aucun doute. Mais je trouve que tu es toujours à une blessure proche. Ou tu sais, je veux dire, tu as quand même là-dedans 2 ou 3 défenseurs qui sont des numéros 6, puis peut-être 2, peut-être 3. En attaque, on l'a déjà dit, le premier trio du Canadien, il fait très bien présentement avec Tatar, Gallagher puis Dano. Mais c'est pour moi, ça reste, si c'est pas le pire trio numéro 1 de la Ligue nationale, c'est un des pires. Ça veut pas dire que l'avenir peut pas être prometteur, puis on voit des belles choses des jeunes joueurs, mais moi je pense que le Canadien est beaucoup trop fragile, puis change pas d'idée, Dan, dans les matchs, surtout sur la route, dans les matchs qui brassent un peu, dans les longs voyages qu'on va faire, tu sais, le voyage du temps des fêtes, puis des choses comme ça, moi je pense que le Canadien est toujours à une blessure près de perdre 4 ou 5 matchs de suite. Fait que tant mieux si l'intérêt est là, puis que le Canadien gagne en début de saison, mais je change pas d'idée que le manque de profondeur va faire en sorte que le Canadien finira peut-être pas 31e, mais je pense pas du tout qu'ils vont faire les séries.
Pourtant, cette semaine, j'ai entendu parler à Montréal de magie, j'ai entendu parler d'esprit d'équipe. J'ai entendu hier une question vraiment pertinente à Claude Julien après la victoire contre Détroit, un journaliste accrédité au Canadien qui a dit à Claude Julien à quel point il trouvait que son équipe était soudée parce qu'un joueur qui est venu défendre un autre joueur en fin de match. Jonathan Drouin dit que on a même l'extrait, François, il dit que c'est différent cette année par rapport à l'année dernière. À Montréal, ils sont partis sur le bateau puis il n'y a rien qui peut les arrêter.
Je pense que je l'ai dit depuis le début, il y a eu un changement, il y a une meilleure attitude. Je sais pas, c'est différent. Peut-être les nouveaux staff, les nouveaux joueurs, on veut mettre l'année passée derrière nous, mais tu vois que ça marche, c'est ce qu'on fait en ce moment, puis ça continue. Mais...
5 matchs, François, tu fais une règle de 3, puis sur 82 matchs, tout est correct.
Mais c'est sûr que le mot attitude est important, par exemple, dans ce que mentionné Jonathan Drouin, parce que lui, quand il est arrivé l'année passée, je pense que tu sais le feu t'a déjà pogné dans la baraque, là, puis tu arrives là, puis tu sais pas trop où tu t'en vas ou qu'est-ce qu'on voit pour toi dans l'organisation, même si on signe à long terme. Donc je pense que quand il a parlé justement d'attitude, on a laissé partir quelques bonhommes qui ont fait en sorte que l'attitude a changé dans le vestiaire. Puis c'est bien comme ça. Je pense que honnêtement, ce que j'aime, Dan, c'est de voir puis dans le match d'hier, tu sais, la réaction des joueurs. C'est extraordinaire. Je regarde un gars comme Tatar qui a l'air heureux, comme rarement on l'a vu sur la patinoire, puis les gars ont l'air du fun. Mais c'est beau avoir du fun puis avoir une équipe plus soudée. Il y a toujours une question de talent qui va revenir. Puis ça, je pense que pour cette année, ça va rattraper le Canadien probablement très rapidement.
Parfait. Merci, François.
Salut, bonne soirée.
Bonne soirée à toi. François Paquette, chroniqueur sportif à qui on parle chaque semaine dans l'avant-match.
Québec, les tripeux de sport ont le bon réflexe. Jusqu'à 19h, au FM 93, vous écoutez l'avant-match. L'heure est venue de vous procurer une nouvelle Lexus à l'événement 72 heures chrono Lexus. Profitez d'un taux de location et de financement aussi bas que 0,4% grâce à un rabais incroyable allant jusqu'à 1,5% sur les modèles Lexus sélectionnés. De plus, recevez jusqu'à 6 000 $ en crédit à la livraison. L'événement 72 heures chrono Lexus se déroule du 17 au 19 octobre seulement. C'est votre chance de partir au volant d'une nouvelle Lexus. Demandez un essai routier dès aujourd'hui.
Certaines conditions s'appliquent.
Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes Royer ajustées à tes pieds. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les orthésistes du pied de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumans.
La saison du hockey est de retour avec les cartes à collectionner LNH Tim Horton. Seulement 1$ à l'achat de toute boisson. Et jouez en ligne à collectionnerpourgagner.com pour avoir la chance de rencontrer Sidney Crosby. Taxe en sus, offre d'une durée limitée dans les restaurants participants.
La route des plaisirs hivernaux commence ici. Passez-nous voir chez votre concessionnaire Toyota du Québec. Les techniciens Toyota certifiés connaissent bien les 15 marques de pneus d'hiver autorisées par Toyota. Procurez-vous les à prix imbattable grâce à notre promesse du meilleur prix.
Si un virus informatique contamine votre entreprise, ou si votre petite moyenne entreprise vit un moyen grand sinistre, en tant qu'entrepreneur, vous mettez des heures et des heures dans votre entreprise. Vous en prenez soin et vous voulez avoir les meilleurs services possibles. En cas d'imprévu, Intact Assurance est là pour fournir la protection dont vous avez besoin. Intact Assurance, protéger votre entreprise, c'est notre affaire. Parlez-nous à un courtier.
Étouffé par vos dettes? Mallette. Syndic autorisé en insolvabilité. Visitez notre site web llTT.ca pour une consultation sans frais. Mallette, avec vous, là où ça compte.
En ce moment, je suis dans les coulisses puis je me prépare à monter sur scène. Mettons que je joue ma pièce de théâtre pendant 2 heures puis que je perds la voix.
Oh, mon chéri! Oh, mon cher amour! Bon, je prends quoi? Moi, je ne sais pas.
Mais ma pharmacienne, elle sait. Elle est toujours là pour me conseiller, elle est disponible pour moi. Puis en plus, je sais que je peux compter sur elle, peu importe mon problème. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Accès Pharma chez Walmart. La santé et rien d'autre.
Vous êtes responsable de la santé et sécurité de votre équipe de travail? Ce mercredi, venez nous voir pour notre événement spécial chez Confiant. Apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur les nouveautés en santé et sécurité au travail. Sur place, plusieurs kiosques qui réunissent les pros de Miller, BW Technologies, Uvex et North. Assistez au séminaire sur la détection des gaz à 10h30. En plus, courez la chance de gagner un des prix de présence totalisant plus de 2000$. Venez nous rencontrer ce mercredi de 10h à 15h chez Confiant 909 Pierre-Bertrand.
C'est le temps de passer à mieux. C'est le temps de passer au Mazda CX-5, le meilleur achat de sa catégorie selon le guide de l'auto et l'annuel de l'automobile 2019. Le CX-5 est offert à partir de l'équivalent de $69 par semaine. Oui, $69 par semaine. Et la traction intégrale iActive est offerte à seulement $11 de plus par semaine. Faites vite. Offrez-vous le Mazda CX-5, meilleur achat de sa catégorie avant le 31 octobre. D'une valeur de $27,895. Location 60 mois à compte de $2,295. Paiement mensuel requis. Des conditions s'appliquent. Détails chez vos concessionnaires Mazda.
Elles sont de retour pour fêter leurs 50 ans, les Belles-Sœurs Théâtre Musical. Les ménagères les plus populaires du Québec reviennent sur scène dans un théâtre musical éclatant. Avec Kathleen Fortin, Sonia Vachon et Evelyne Gélina, les vraies paroles de Michel Tremblay, une mise en scène de René Richard Cyr sur une musique de Daniel Bélanger. Les Belles-Sœurs Théâtre Musical du 7 au 25 novembre au Théâtre Capitole. Billets sur lecapitole.com. Une invitation du FM 93.
La loterie Grande Vie, c'est 1 000 $ par jour à vie. Bon, mettons qu'un jour, t'as envie d'un latte à la citrouille. Tu vas au café, ah, la file est trop longue. Fait que tu laisses faire. Tu reçois 1 000 $. Le lendemain, tu y retournes, tu finis par avoir ton latte, mais ils ont oublié de mettre la citrouille dedans. Pas grave, tu reçois encore 1 000 $. Puis le jour d'après, hey, mais sérieux, on se le dit-tu, là? C'est pas buvable, un latte à citrouille. Tu fais 1 000 $ par jour. Il me semble que tu mérites mieux que ça, hein? Puis les citrouilles, on garde ça pour l'Halloween. OK? Grande vie, c'est 1 000 $ par jour à vie. Tirage les lundis et jeudis, 18 ans et plus.
Chez Honda de Giro, la Civic est en location à partir de 0,99%, et c'est votre dernière chance de profiter du boni Civic de $750. Honda de Giro, toujours ouvert le samedi.
Pour connaître les dernières nouvelles, Dan est là au FM 93. 93. Vous écoutez.
Et évidemment, vous me connaissez, je ne veux pas m'acharner. Je veux juste faire un parallèle entre Jesperi Kotkaniemi, qui a 2 passes en 5 matchs, et le choix suivant, le 4e choix, Brady Tkachuk, 3 buts, 3 passes en 4 matchs avec les Sénateurs d'Ottawa. Gros bonhomme, 6 pieds, 3 pouces, 200 livres. Malheureusement, un ailier gauche. Le Canadien cherchait un joueur de centre. On s'entretient maintenant avec Gilles Moffett, expert des gardiens de but, pendant plusieurs années malgré son jeune âge. Salut Moff!
Du jeune retraité.
Ben oui, jeune retraité.
C'est plus précis que jeune âge.
Oui, c'est ça. Comment ça va?
Ça va bien, Dan, toi?
Oui, ça va très bien, merci. L'équipement des gardiens de but, on a jasé de ça. On a même apporté des modifications. On a réduit le plastron, si j'ai bien compris.
Oui. Le plastron, les culottes, les jambières, tout y est passé là, okay. Dans les dernières années. Là.
Est-ce que tu vois une différence importante?
Ouais, je les vois télé. Là. je peux pas. C'est, de proche, il y a des petites différences, là, surtout pour les on parle du plastron, les épaulettes. On veut un équipement plus conforme au corps du gardien. T'sais, on veut pas qu'il y ait un gardien qui pèse 190 livres à l'air d'un gardien de 250 livres. C'est un peu ça. Okay. On progresse au niveau individuel avec le but, toujours le même but, d'essayer d'augmenter le nombre de buts. Mais je trouve que la logique, il y a une logique quand même dans le fait que tu sais que tu veux une certaine uniformité, là, que ça soit conforme à l'équipement du gardien. Tu veux pas qu'un petit gardien, disons gardien de moyenne taille aujourd'hui, il n'a plus des petits,
non.
Mais tu veux pas qu'il ait l'air énorme. Puis c'est correct, mais dans le sens où on va avoir beaucoup plus de buts, là, je pense pas qu'on va. Il va peut-être en avoir un petit peu plus, quelques rondelles qui vont passer un petit peu entre le bras et le corps, ou peut-être un petit peu encore par-dessus les épaules. Mais pour un gardien de but, ça va te faire 4 buts dans une saison. Je sais pas. Je pense pas que ça soit beaucoup plus que ça. Là. Puis on envoie les buts, là. C'est sûr que c'est pas à cause de ça. Là. En début de saison, mais les systèmes défensifs sont souvent un petit peu en retard sur les nouvelles tendances. Mais moi, je trouve que là, OK, à chaque année, là, je trouve que ça progresse. On voit de la créativité, de la vitesse. Les gardiens sont obligés de se déplacer gauche-droite. C'est vraiment un travail extrêmement difficile. Puis que le fait qu'on réduise l'équipement, ben, je pense que les meilleurs gardiens de but, ben, ils vont avoir plus de chances de vraiment être les meilleurs gardiens de but par rapport aux autres. Mais ça changera pas énormément. Ce qu'on espère, c'est que ça cause pas de blessures. Là, il y a eu des petits problèmes un peu avec les premières. Mais je pense que le travail se fait de façon très professionnelle. Là, entre la Ligue, Kay Whitmore, les gardiens de but, les manufacturiers. Mais il y a beaucoup d'échanges. Mais c'est un long processus. Là. On voulait le faire l'année passée. On a eu des problèmes. Même cette année, là, c'est pas encore tout à fait prêt, même si on est plus avancé que l'an dernier. On est obligé de retourner un peu à planche à dessin des fois. Okay. Alors, c'est long, mais pour arriver à quelle différence en bout de ligne, là, c'est, à part le look de certains gardiens, là, d'après moi, ce ne sera pas grand-chose.
Je t'écoutais parler des gardiens faut pas qu'ils aient l'air si énormes, s'ils n'ont pas... Tu sais, il faut que ça soit représentatif de leur grandeur et leur poids. Ça me faisait penser à Jean-Sébastien Giguère avec les Ducks d'Anaheim, qui avait l'air du géant ferré devant le filet.
Oui, puis on peut remonter dans les années 90. Là. C'était pire que ça dans les années 90. Dan, à un moment donné, t'as déjà des gardiens, il y avait des jambières de 15 pouces de large, alors que les anciens gardiens de mon époque, on jouait des jambières de 10 pouces. Là. Alors, là, on est revenu à une norme de 12 pouces. Puis, okay. Puis ce qui est fou, là, c'est quand on regarde des vieux vidéos, là, puis les jambières brunes, là, tout ça, puis le gardien, il est gros comme un pou. Son équipement était deux fois plus pesant. Non seulement, il paraît moins bien que les gardiens d'aujourd'hui parce que c'est ce qu'il passe, c'est beaucoup plus léger. Puis on s'entend que au niveau athlétique, ça a beaucoup évolué, mais c'est difficile de comparer. Mais les années 90, effectivement, c'était tellement gros, les équipements. Puis en plus, t'avais de l'accrochage, il y avait moins de jeux latéraux. Les joueurs qui n'avaient pas rondelle se faisaient accrocher. Fait que les gardiens de but avaient juste à se positionner dans le centre de son filet, couvrir les angles, bloquer la rondelle en style papillon, puis le tour était joué. Tu avais juste à te replacer. Il y a beaucoup de gardiens qui ont fait une carrière comme ça. Là, mais évidemment, il fallait que tu sois capable de te déplacer. Mais aujourd'hui, là, peut plus tricher. Là. Dans les années 90, je pense, c'est les années où les gardiens ont le plus triché. Là. Mais aujourd'hui, là, c'est, le hockey est tellement, tellement rapide, les joueurs tellement habiles que là, ça prend du talent vraiment là, pour être un gardien de but dans la Ligue nationale.
OK. Connor Hellebuyck, récemment, s'est plaint. Il a dit avoir dû arrêter une rondelle à la hauteur de la clavicule. Il dit auparavant, on n'avait pas ça. Il dit même que ça lui a fait mal. Il dit c'était pas très agréable. C'est un des changements.
Oui, ça, faut absolument qu'il ajuste à ça. La priorité devrait toujours être la sécurité des gardiens. Je suis certain qu'on peut faire... Moi, je suis convaincu qu'on peut améliorer l'équipement, on réduit l'équipement sans compromettre la sécurité, mais ça doit être bien fait. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'essais et erreurs de ce côté-là. Il ne faut pas que le gardien se sente déjà en danger. C'est pas bon signe. Alors, il faut vraiment... Là-dessus, je pense qu'on est un petit peu rapide là, au niveau de la Ligue pour arriver à ça. Alors, il faut s'ajuster, puis ça presse. On ne peut pas laisser les gardiens comme ça se faire blesser. Imagine-toi les Jets en Connor et le Buck. C'est épouvantable. Puis le Buck, c'est un gardien qui est très, très minutieux. Alors, je suis convaincu qu'il n'a pas dû gêner pour dire sa façon de penser à M. Whitmore.
Gilles, t'as pas eu peur de nous dire ce que tu pensais de Carey Price la saison dernière. Est-ce que tu as vu dans les trois premiers matchs qu'il a gardé cette année un nouveau Carey Price?
Oui, mieux que l'année dernière, c'est sûr. On s'attend, c'est impossible qu'il fasse pire que l'an passé. Là, tout est allé de travers pour lui l'an dernier. Alors, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un qui reste en santé, puis deux qui a une bonne attitude. Alors, là, il y a un petit virus, c'est rien de long terme. Alors, oui, il est revenu avec son début de saison. Il y a un début de saison intéressant, pas flamboyant, mais intéressant. Puis, ce qui est le fun, c'est que le Canadien, la nouvelle attitude semble vraiment être là. Là, ce que Marc Bergevin souhaitait. Et on sent un enthousiasme chez le Canadien. Donc, Carey Price, ça va l'air dans de bonnes dispositions. Puis, je pense qu'il y a quelque chose à prouver, lui aussi. On peut dire qu'il y a un contrat de 8 ans. Là. Je pense qu'il n'a pas envie de s'asseoir là-dessus et de dire que c'est fini. Là. Je pense que tout athlète professionnel a de l'orgueil. Puis, c'est pas encore un vieux gardien de but. Je pense qu'il y a des choses à prouver. Puis, j'espère qu'il va nous le démontrer là, à son retour au jeu puis dans les prochaines semaines. Il n'y a aucune raison que Price ne soit pas de retour parmi l'élite.
OK. Est-ce que tu es inquiet pour Matt Murray qui est encore sur la touche?
Ouais, là, on avait parlé un petit peu l'an dernier. On parlait du court terme, mais là, il n'y a pas eu, vraiment un mauvais début de saison. Puis en plus, là, il est blessé. Là. Alors, écoute, il est encore jeune. Là. Ça se peut que sa saison soit vraiment affectée par ça. Alors, ça va être à lui de rebondir, mais j'imagine que ça doit être très frustrant là, de son côté. Là, tu veux te racheter, puis tu fais blesser. Par contre, mentalement, son pire problème, c'était qu'il jouait pas bien. Mais là, en étant blessé, son pire problème, c'est plus de pas bien jouer, c'est de pas être en santé. Alors, même qu'il va revenir, peut-être qu'au niveau mental, qu'il va être un petit peu plus... à point, il restera au corps à suivre.
OK, on dit que la Ligue nationale est de plus en plus rapide. J'observe qu'il y a des gardiens, début trentaine, Crawford, Quick et Schneider qui sont blessés, même Luongo qui est en fin de trentaine. Est-ce que c'est une tendance qu'on va observer, des gardiens à 31, 32, 33 ans qui vont être plus souvent blessés que dans les dernières années?
Possiblement, puis de façon générale, même des jeunes, là, on le voit avec Murray puis d'autres. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Le hockey, c'est devenu tellement exigeant. Là, les gestes que doivent faire les gardiens de but, là, les jeux latéraux, puis les lancers voilés, la rondelle qui sort de n'importe où, tu redéplaces, puis tu dois faire ça de façon vraiment explosive. Alors, les exigences sur les hanches, il faut repousser, te remettre en position, puis les étirements, on voit plus de jeux où le gardien était vraiment là, en situation un peu désespérée, qui doit s'étirer à son maximum. Le travail de gardien de but est de plus en plus exigeant, puis le corps écope. Puis c'est sûr que c'est plus évident si les gardiens dans la trentaine, mais je pense que même les jeunes ne seront pas épargnés.
OK. Peu importe l'âge, c'est de plus en plus difficile d'être gardien de but dans la Ligue nationale.
Ah, c'est des méchants athlètes. C'est comme les joueurs de hockey en général aujourd'hui. Oui. Moi, je suis impressionné. Dans tous les sports, on voit ça, là, mais je trouve ça extraordinaire. C'est de toute beauté de voir aller ça. Puis j'ai l'impression, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas vu de hockey depuis quelques mois, mais je trouve ça encore plus rapide que l'an dernier.
Oui, hein. Est-ce que pour toi, le meilleur gardien de la Ligue en date d'aujourd'hui, c'est Bobrovsky?
Moi, juste le meilleur. On peut plus dire qu'il y en a un qui est vraiment le meilleur. Là.
Okay.
Bobrovsky, Oui, il a gagné le trophée Vézina, mais en série, ça a été plus un flop que d'autres choses. Donc, il y a un bémol là. Pekka-Rinne, c'est plus équilibré, mais encore là, il y a eu des faiblesses. Price a eu des blessures. Vasilevski, il commence. Il y a eu des hauts et des bas. La fin, sa deuxième fin de saison a été difficile l'an dernier. Alors, ces gars-là ont tous. Il n'y en a pas un là qui a un CV là, parfait. C'est vraiment lui. Là, qui a tout gagné. Puis qui a tout fait. Même ceux qui ont gagné, c'est peut-être pas nécessairement ceux qui ont été les meilleurs là, en saison régulière. Là. C'est Oldby, par contre. Oldby, c'est sûr qu'il n'y a pas un des gros débuts de saison, mais c'en est un là, qui a combiné et des grosses saisons et des grosses séries, même si l'an dernier il n'y a pas eu une grosse saison, mais pour l'ensemble de l'œuvre, là, je te dirais que c'est pas mal lui qui est maintenant qui a gagné une coupe, là, puis il avait déjà eu des grosses séries avant, un petit peu plus difficiles dans les deux dernières années, mais je pense qu'Oldby pourrait mériter ce titre-là présentement, mais il y en a tellement des bons, là, puis il y a des jeunes qui s'en viennent, là. On parlait de Lebas, que ce gars-là va être bon pendant longtemps, je pense. Un gardien talentueux comme John Gibson, je sais pas au niveau de la constance, mais il est bien parti cette année. Il y a plein de bons gardiens de but là, qui est très talentueux, qui est toujours blessé vers la mort. Un excellent début de saison. Si ce gars-là peut passer une saison santé, il peut gagner le trophée Vézina. Je te dirais, le meilleur, présentement, il faudrait pencher un peu du côté de Oldby pour l'ensemble de l'œuvre. Mais
parfait.
On se parle aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, c'est... Écoute, il y en a plusieurs bons. Très bons, même.
OK. Un gros merci, Gilles.
Ça fait plaisir, Dan.
Bonne soirée à toi. Gilles Moffett, expert gardien de but, à qui on parle quelques fois par année dans l'avant-match. On a un sondage sur la page Facebook de l'avant-match. Qu'est-ce que le Canadien devrait faire avec Jesperi Kotkaniemi? Le garder dans l'entourage de l'équipe? Ou l'envoyer dans une autre ligue, soit en Europe, en Finlande, là où il a grandi, soit avec Joël Bouchard, pour parfaire son développement. Parlant de Joël Bouchard, il a piqué une crise. Il pensait qu'il était encore avec l'Armada. Écoutez bien.
Je suis pas content parce que tout va bien, puis là, ça fait hier, il était moyen, puis aujourd'hui, ils sont pas bons. On a trois matchs à la maison, on est deux. On joue pour 500, là, tu sais, je peux comprendre, si on est quatre victoires, aucune défaite, des fois relâchement, il n'y a pas de relâchement à avoir, là. Tu sais, c'est drôle, tout ce que j'entends depuis trois jours, c'est Plekanec, c'est un professionnel, il doit avoir fait je sais pas combien de millions dans sa carrière, il joue 1000 matchs, puis tout ce que j'entends, c'est comment il était bon dans les entraînements, comment il se prépare, comment il performait dans les matchs, ce que j'entends, c'est comment il était professionnel. Ce que je cherche, là, ils ont pas 1000 matchs dans la Ligue nationale, là. Fait que je pense qu'ils peuvent être professionnels, les autres aussi, là. Puis aujourd'hui, il était pas professionnel. Regarde, moi, j'accepte pas ça. Je m'excuse, là. On a un job à faire, là. J'ai demandé 40 minutes de pratique, là. Fait qu'ils sont pas capables de donner 40 minutes, on va les arrêter à 26, puis commenceront demain, parce que je ne perdrai pas mon temps à cette glace.
As-tu l'impression que ça va prendre du temps un peu à inculquer cette mentalité-là avec une...
Ben, regarde, ça fait trois semaines, c'est la première fois que ça arrive. Là. Mm-hmm. Ben, une fois, c'est une fois de trop. Mm-hmm. T'embarques, t'as un job à faire, bang, t'as fini, puis après ça, on s'en va. Pas comme si les exercices étaient bien, bien difficiles. Là. Ouais. Ils ont 22, 23, 25, et tu t'es pensé capable de faire ça. Là. C'est mm-hmm. le focus qui n'était pas là, l'exécution n'était pas là, c'est inacceptable.
Jusqu'à 19h, encore plus de sport avec l'avant-match.
En octobre, c'est la liquidation des 2018 chez Lévis Honda. Le temps presse, la course vide. Profitez de nos offres exceptionnelles sur la Civic. Location à partir de 0,99% jusqu'à 48 mois et obtenez un boni de $750. Passez vite chez LévisHonda.com.
Allô, c'est moi, la spécialiste Daikin. Saviez-vous qu'au Québec, selon Hydro-Québec, près de 50% de notre facture énergétique est pour le chauffage? C'est énorme! C'est environ 15 fois plus que pour climatiser votre maison. Alors, optez pour une thermopompe Daikin. C'est un choix vraiment judicieux, car en plus de diminuer votre facture de chauffage, elle rend votre demeure très confortable. Pour en savoir plus, venez me rejoindre en ligne au daikinquebec.net et, en tant que spécialiste Daikin, je vais tout vous expliquer. Daikin, les meilleurs thermopompes au monde.
Vous voulez des bonnes raisons d'acheter votre roulotte ou caravane à sellette maintenant chez Caravane Marco? C'est la vente fin de saison et on liquide nos 2018. Comme une roulotte Salem 232 RBXL 2018 à seulement $22,900. Ou une roulotte Real Light RL 177 à seulement $20,500. En plus, achetez maintenant et on s'occupe de l'hivernisation sans frais et on vous livre votre achat au printemps. Aussi, profitez d'un choix de roulottes et caravanes à sellettes usagées. Profitez-en maintenant chez Caravane Marco, 1540 Cirée du Quai, Québec.
Pour une annonce de pick-up, ça prend une grosse voix de pick-up.
Ici PA Méthode. En ce moment, chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le mois du camion.
Viens chercher ton Titan tout noir édition minuit. En location à seulement $430 par mois sur 24 mois. C'est comme payer seulement $99 par semaine.
On peut pas aller plus bas.
À compte de $3,995. Tous les détails chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan.
Dégustez le meilleur de la terre et de la mer à L'Ophelia. Côté mer, L'Ophelia vous offre entre autres le risotto au homard, la morue d'Islande et le crabe des neiges. Côté terre, découvrez une vaste sélection de viandes, du contre-filet au tomahawk en passant par le filet mignon. Une belle façon de découvrir L'Ophelia, c'est de profiter du menu midi à prix d'amis. Dans un décor appelant un yacht de luxe, embarquez à bord de L'Ophelia. Service de valet gratuit en tout temps. Réservé dès maintenant. À L'Ophelia sur Grande Allée.
Économisez plus chez Shell. En glissant simplement votre carte Air Miles, obtenez un rabais de 3 cents le litre d'essence. Détails dans les stations Shell participantes. Profitez-en.
Oh non, pour changer les pneus.
Changer les pneus de son auto stressait beaucoup Mario. Mais Point S l'a vite soulagé. Chez Point S, quand on vous dit qu'on installe vos pneus en une heure, on installe vos pneus en une heure.
Oh non, pas mon char neuf.
Bon, si Mario est encore stressé, c'est parce que son garçon vient d'avoir son permis.
Pour un temps limité, procurez-vous les pneus BF Goodrich à partir de $8,58 par mois sans intérêt et à l'achat de 4, recevez jusqu'à $70 en remise postale.
Pas de stress, il y a Point S.
Des conditions s'appliquent, détails à Point S.ca.
Salut, c'est Jean de Levi Chrysler. Ça fait déjà un bout de temps qu'on les a reçus et j'en reviens toujours pas. Qui es-tu beau le nouveau Ram 2019? Maudit que je les aime, les pick-up Ram. On vous l'offre maintenant en location à $99 par semaine, $0 comptant sur 54 mois. Un Ram, quand ça t'en prend un, ça t'en prend un. Pour les meilleurs, c'est Levi Chrysler, pas ailleurs.
Tu veux les meilleurs, perds pas ton temps ailleurs.
Si vous avez besoin de vos lunettes de lecture pour lire vos courriels et vos textos, arrêtez de zoomer et faites corriger votre vue. Grâce à la presbyvision de LASIK-MD, voyez de près, de loin et de partout sans lunettes à double foyer, verre à foyer progressif ni lunettes de lecture. Et pour une durée limitée, vous pouvez économiser jusqu'à 20% sur le coût de votre intervention presbyvision pour que vous puissiez profiter d'une vision claire dès aujourd'hui. Réservez votre consultation gratuite et sans obligation à LASIK-MD.com.
La Maison Victoria présente le Salon des mariés de Québec. Venez assister au défilé de mode les 20 et 21 octobre au Centre de foire d'Exposité et courez la chance de gagner un voyage pour deux à Cuba. Le Salon des mariés de Québec, un incontournable avec plus de 150 kiosques à visiter.
Votre prochain hiver, vivez-le au volant d'une Rio avec les pneus d'hiver et l'entretien 2 ans en cadeau, volant et siège chauffant plus la caméra de recul inclus. Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. C'est l'événement toujours en tête. Rio à partir de $39 par semaine chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
Quand les joueurs se concentrent, quand les spectateurs affluent, c'est que le match est sur le point de s'enflammer. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match avec Dan Pou.
Leonard raises up. Nothing with the bottom! Ridiculous! To Waddle! Three on the three! Spurs by a deuce!
Or just come in, come off and shoot it.
Harden! Blocked by Leonard! Nene! Blocked by Aldridge! Spurs basketball! Oh, what a play! Oh, what defense! Unbelievable!
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait qui concernait Kawhi Leonard, le nouveau joueur des Raptors de Toronto. On va jaser de cette saison de la NBA qui débute ce soir avec deux matchs. Un match à Boston qui va opposer les 76ers aux Celtics et un match à Golden State qui va opposer Oklahoma City aux Warriors. On en parle avec Charles Dubé-Bret. Il est l'un des entraîneurs du club école des Raptors dans la J-League. Salut Charles!
Salut, ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, très bien, merci.
J'ai adoré ton cheminement. On s'est parlé il y a quelques mois. Et t'es un gars qui s'exprime bien. Donc, pour lancer la saison de la NBA, mon collègue Will et moi, on s'est dit, on va reparler à Charles. Un gros merci de prendre quelques minutes pour nous. C'est très apprécié. T'étais dans les dernières semaines à Toronto, au camp d'entraînement des Raptors. Et la bonne nouvelle pour les gens qui ont vu le match sur concours présenté au Centre Bell, c'est que Chris Boucher, le petit gars d'Alma, un petit gars, évidemment, je le dis avec des guillemets parce qu'il fait 6 et 10, a signé un contrat avec l'équipe.
Ouais, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le basket québécois en général. À chaque fois qu'un qu'un de ces joueurs-là de chez nous peut avoir accès à la NBA. C'est pas quelque chose de commun. Donc, déjà, je pense que tout le mérite lui revient parce qu'il a commencé un processus avec nous à la Summer League à Las Vegas cet été. Et puis, je pourrais dire de l'intérieur que son premier entraînement avec nous n'avait pas été le meilleur, mais je pense qu'il a su s'adapter. Il n'avait pas joué dans les premiers matchs, mais il a su saisir sa chance quand il l'a eu. Puis, il a montré que malgré certaines lacunes techniques qu'il peut avoir, qui sont assez évidentes là, pour un joueur qui a commencé à jouer au basket à 19 ans, comme c'est son cas, il a réussi à montrer qu'il pouvait être productif avec ce qu'il sait faire, son jeu en défense. Bien sûr, il est reconnu pour être un très, très bon bloqueur de tir, tout ça, mais il a réussi à se développer techniquement aussi sur l'été au point que les Raptors ont jugé que ça valait la peine de le mettre sur un contrat two-way. Puis ça, je pense que les Raptors sont contents aussi parce que c'est un joueur canadien, puis nous, on est contents parce que c'est un joueur du Québec plus particulièrement.
Parfait. Si tu me permets le parallèle avec le baseball, on dit souvent que les Blue Jays sont pas dans la bonne division étant donné qu'ils ont les Red Sox et les Yankees dans les pattes pour accéder aux séries. Est-ce qu'on peut déduire que dans la NBA, les Raptors avaient LeBron James dans les pattes et étant donné qu'il est parti chez les Lakers, le chemin est ouvert pour vous pour accéder à la finale?
Ouais, ben je pense qu'il faut pas s'emporter là dans un premier temps. Je pense qu'on a une très bonne équipe, mais après ça se gagne sur le terrain aussi. Bien entendu, LeBron a monopolisé la conférence de l'Est depuis 2011, donc ça faisait 8 années de suite où son équipe elle se rend en finale. Donc c'est sûr que bon, pour la première fois depuis 2010 avec les Celtics à l'époque, ça commence à remonter, mais il va y avoir une autre équipe que l'équipe de LeBron James en finale à l'Est. Donc on espère pouvoir se faufiler là. On sait qu'il va y avoir des très gros candidats comme les Celtics, les Sixers pour ne nommer que ces deux-là. Mais ça reste que oui, je pense que c'est un petit peu plus ouvert cette année que ça a pu l'être par le passé. Parce que LeBron, c'est un joueur qui a sa présence de joueur, mais aussi l'intimidation qui cause par le fait qu'il est tellement bon. Je pense que ça jouait un petit peu dans la tête des équipes qui l'affrontaient en série. Ça a été le cas un petit peu des Raptors en deuxième ronde, des Celtics probablement lors du septième match pour accéder à la finale. Donc, bon, après, la saison est longue, il y a 82 matchs, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais on espère être capable de construire les choses peu à peu pour accéder à la finale pour la première fois de l'histoire des Raptors.
Charles, j'ai croisé beaucoup de gens cet été qui suivent le basket de plus en plus, évidemment, dans la région de Québec ici, et les gens me disaient être déçus du changement d'entraîneur, être déçus également du départ de DeMar DeRozan. Qu'est-ce que tu peux dire pour les rassurer?
Ben écoute, je pense que bon, déjà dans un premier temps, Dwayne Casey, ça a été un super entraîneur, c'est le meilleur entraîneur que la franchise a eu depuis sa création en 1995. Donc, je pense que tout le monde à Toronto est conscient de l'immense travail qu'il a fait dans les 7 années où il était à la tête des Raptors. Après, je pense que c'est compréhensible aussi que quand la même chose se passe année après année, c'est-à-dire des saisons régulières très satisfaisantes puis des séries un peu décevantes, particulièrement les deux dernières années, ben c'est normal que si t'es à la tête, si t'es le front office des Raptors, ben tu dois déterminer est-ce que tu veux réécrire le même script, le même scénario année après année, ou tu veux vraiment faire un commitment ou peut-être changer les choses pour avoir une chance d'accomplir plus. On dit que une définition de la folie, c'est de refaire les mêmes choses puis s'attendre à des résultats différents. Donc je pense que l'idée des Raptors, c'était peut-être aussi de faire les choses un petit peu différemment. Puis au-delà de parler de Dwayne Casey, je pense qu'il faut parler beaucoup de Nick Nurse, qui était certainement reconnu par tous ses pairs comme un des meilleurs assistants coach de la NBA. C'est un gars avec une tête de basket exceptionnelle. Et puis les Raptors avaient de la chance de l'avoir comme assistant depuis 5 ans. Puis je pense que c'était son temps aussi pour lui de devenir head coach NBA. Si ça n'avait pas été à Toronto, ça aurait été ailleurs. Donc je pense que les Raptors ont fait une décision pour aller de l'avant puis donner une nouvelle voie dans le vestiaire avec Nick Nurse. Mais pour l'avoir vu de l'intérieur, Nick Nurse est un extraordinaire entraîneur. Puis je pense qu'il va avoir beaucoup de succès à la tête des Raptors. Donc ça, c'est pour le côté coach. Maintenant, pour ce qui est de DeMar DeRozan, ben un peu dans le même sens. DeMar est ici depuis 2009. Ça a été un super choix en repêchage pour eux qui a produit énormément et pour l'équipe et pour la ville de Toronto. Il s'est beaucoup impliqué dans la communauté ici. Puis il détient maintenant plusieurs records d'équipe. Donc forcément, ben on le perçoit comme étant le greatest Raptor ever, comme on dit ici. Donc il a accompli beaucoup pour la franchise et pour la ville. Après, c'est un joueur que quand on regarde les choses de manière arbitraire, ben qui n'a peut-être pas produit au niveau où on aurait voulu qu'il produise dans les dernières années en éliminatoire. Donc, okay. À un moment donné, il y a un dénominateur commun dans les équipes NBA qui gagnent les championnats puis qui se rendent là, c'est que ça prend un des cinq meilleurs joueurs de l'NBA pour y accéder. Et puis DeMar DeRozan, ben il est pas un des cinq meilleurs joueurs de l'NBA. Donc le jour où ces joueurs-là sont tellement difficiles à obtenir, quand tu peux en avoir un comme Kawhi Leonard, ben je pense qu'il faut que tu donnes ce que tu as à donner. Puis ça implique de donner un joueur de la trempe de DeMar DeRozan. Mais ils sont durs à avoir ces joueurs de top 5 là. C'est pas demain matin que les Warriors vont te dire on va te donner Steph Curry ou on va te donner Kevin Durant ou LeBron James ou ces joueurs-là. Donc quand il y en a un qui est disponible, c'est très rare, ben tu fais ce que tu as à faire pour l'avoir. Puis ça crée une grosse excitation à Toronto aussi d'avoir Kawhi Leonard. Et puis même si l'organisation a remercié beaucoup DeMar DeRozan, je pense que le cette année va être vraiment excitante avec Kawhi avec nous.
Un gros merci à toi, Charles. Bonne saison.
Merci à toi.
Salutations. Charles Dubé-Bray, entraîneur des Raptors du Club École, nous parlait de cette saison de la NBA qui débute ce soir. C'est tout pour l'avant-match. Je vous dis bonsoir. Merci.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93. Ça me parle.